posture pour ne pas devenir une imposture. Succès est un échec si les posthumes. Je peux m'envoler dans les airs, j'ai une grosse plume qui m'envoie au-delà des humains et de leur costume. Le pelosi, vite, vite, change la mélodie. Des idées flingues, tous mes sons à peine audibles. Ici pas que des délores, plus des lobbies, boy et puis des lobbies. J'ai le mojo sans le
HDR. Ou juste un nouveau journal avec Pierre Boudias. RFI 13h à Paris, midi, temps universel. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Pierre Boudias. Bonjour Pierre.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Et à la une, Israël, Iran, Liban, le Moyen-Orient, toujours sous un tapis de bombes.
Au septième jour de guerre, l'armée israélienne intensifie notamment ses opérations dans le pays du Cèdre. Nous irons à Beyrouth, où le Premier ministre met en garde contre les risques de catastrophes humanitaires. L'Iran continue de viser les pays du Golfe, abritant des intérêts américains. Riyad et Doha annoncent l'interception de drones et de missiles. Un champ pétrolier irakien également visé. Des États qui se retrouvent pris dans une guerre qu'ils n'ont pas voulu, nous dira notre envoyé spécial dans le Golfe. Un conflit qui fait la une de l'actualité au risque d'effacer d'autres situations dramatiques dans le monde. C'est notamment la crainte des habitants de Gaza, à nouveau coupés du monde depuis samedi dernier. Vous entendrez des Gazaouis confrontés à des pénuries et à la peur d'être oubliés. Nous serons également en France où les parlementaires demandent et obtiennent l'organisation d'une réunion autour du Premier ministre pour faire le point sur la situation au Moyen-Orient. Et à Hong Kong où une figure du mouvement démocratie renoncer à faire appel d'une lourde condamnation en espérant l'ouverture de négociations internationales pour obtenir sa libération.
RFI Midi.
Déjà 7 jours de guerre au Moyen-Orient et les missiles continuent de tomber.
Israël et États-Unis continuent de pilonner l'Iran. Ces dernières heures, on va y revenir, mais l'armée israélienne frappe également intensément le Liban, le pays du Cèdre qui fait face ces derniers jours à une incursion terrestre dans le sud du pays. Opération officiellement lancée pour déloger le Hezbollah allié à la République islamique. Elle s'accompagne donc de bombardements massifs. 5 personnes ont été tuées ce vendredi dans une frappe qui aurait visé une ville du sud du Liban. Paul Ralifé, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour tout le monde.
Vous êtes notre correspondant à Beyrouth. L'escalade militaire amorcée par l'armée israélienne s'est donc intensifiée dans plusieurs régions libanaises.
Effectivement, et un nouvel objectif a été introduit dans la banque de liste de cibles de l'armée israélienne. Saïda, la troisième ville du Liban, située à 45 km au sud de Beyrouth. Les appareils ont visé sans avertissement préalable dans la matinée un appartement sur la corniche maritime, provoquant une forte explosion et d'importants dégâts. L'aviation israélienne a poursuivi en parallèle le bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, visée par une nouvelle vague de raids dans la matinée. Depuis jeudi soir, cette ville, dans la ville, qui s'étend sur 20 km carrés, a été la cible de 15 vagues de raids. Dans le sud du Liban, les avions et les drones ont attaqué des cibles dans 10 localités différentes avant de pousser vers le nord de la Beka, où une grande bourgade a été frappée.
Et Paul, cette escalade sur le terrain a considérablement gonflé le nombre de déplacés depuis hier. Est-ce que les autorités parviennent à gérer cette situation d'urgence ?
Difficilement, surtout que la situation s'est gravement détériorée en très court laps de temps. Depuis le début de la guerre lundi matin, la cellule de crise gouvernementale a ouvert plus de 220 centres d'hébergement qui ont accueilli 95 000 déplacés. Cependant, l'espace de quelques heures, jeudi, des centaines de milliers de personnes ont fui dans un grand désordre la banlieue sud de Beyrouth après un appel à une évacuation massive lancée par l'armée israélienne. Des milliers de familles ont passé la nuit sous des ponts, dans des parcs, sur des terrains vagues ou sur le bord de mer. Le Premier ministre a évoqué cette question ce vendredi devant le corps diplomatique accrédité à Beyrouth. Nawaf Salam a averti qu'un désastre humanitaire se profile en raison du déplacement massif et a mis en garde contre des conséquences qu'il a qualifiées de sans précédent.
Paul Ralifé, correspondant de RFI à Beyrouth, merci à vous. Et justement, le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU estime, lui, que le Liban est devenu un point chaud majeur de cette guerre au Moyen-Orient. Volker Turk appelle à la cessation immédiate des hostilités, demande aux États impliqués de laisser une chance à la paix. Les Nations Unies, qui exigent par ailleurs une enquête américaine rapide et transparente après une frappe sur une école iranienne au premier jour de la guerre. Elle aurait fait plus de 100 morts, dont de nombreuses fillettes, selon les autorités iranienne. L'Iran, je vous le disais, toujours sous le feu israélo-américain, frappe sur Téhéran la nuit dernière. Les autorités annoncent également que 20 personnes ont été tuées dans une agglomération du sud du pays. Alors qu'Israël promet un durcissement de ses opérations en République islamique, des manifestations de soutien au régime ont été organisées aujourd'hui, notamment dans la capitale. Rassemblement après une prière du vendredi organisée en plein air dans plusieurs villes iraniennes.
La République islamique qui continue dans le même temps ses ripostes.
Elles ont notamment visé Tel Aviv ce matin où plusieurs explosions ont été entendues. Pas de victimes à signaler selon les autorités. Mais ce sont aussi les pays du Golfe qui encaissent ces représailles iraniennes. Téhéran qui vise les intérêts américains dans la région. Opération qui a notamment visé ce matin un champ pétrolier irakien exploité par une société américaine. L'Arabie Saoudite et le Qatar disent avoir intercepté des drones ces dernières heures, tandis que l'armée iranienne assure également avoir attaqué des bases américaines au Koweït et projette de durcir encore ses frappes. Guillaume Deltaye, bonjour.
Bonjour Pierre.
Vous êtes dans le Golfe pour RFI. Les dirigeants de la région s'étaient pourtant opposés à cette guerre. Et depuis samedi, ils n'ont pas ouvertement critiqué les États-Unis et Israël. Mais tout de même, une prise de parole suscite de l'attention, celle d'un homme d'affaires émirien.
Oui, celle de Khalaf Ahmad Al-Habtour, une grande fortune des Émirats Arabes Unis, à la tête d'un groupe engagé dans l'hôtellerie, les centres commerciaux et la construction. Hier, cet homme d'affaires a publié sur le réseau social X un message adressé à Donald Trump. Il qualifie l'entrée en guerre de décision dangereuse et il interroge « Qui vous a donné la permission de transformer notre région en champ de bataille ?» Khalaf Ahmad Al-Habtour ajoute, toujours à l'adresse du président états-unien, que cette guerre a été lancée avant même que l'encre de l'initiative du Conseil de paix que vous avez annoncée au nom de la paix et de la stabilité ne soit sèche. Qu'en est-il des promesses, interroge-t-il alors, soulignant que la majeure partie du financement de ces initiatives provenait de pays de la région. Khalaf Ahmad Al-Habtour n'est pas un porte-parole de son pays, il s'exprime en son nom propre, mais une telle adresse publique est rare dans un pays où les affaires politiques se commandent surtout dans des salons, derrière des portes closes, et elle traduit, Pierre, la puissance d'un sentiment qui existe dans la région. Cette guerre n'est pas celle des pays du Golfe, il n'en voulait pas.
Guillaume Deltaye, envoyé spécial de RFI dans le Golfe. Et dans ce contexte, l'Ukraine annonce qu'elle va prochainement envoyer des experts militaires au Moyen-Orient. Kiev entend ainsi aider les États-Unis et leurs alliés à contrer les frappes de drones dans la région. Les modalités de ce déploiement ne sont pas encore connues. L'Organisation mondiale de la santé va de son côté reprendre ses opérations dans son important centre logistique de Dubaï.
Et les conséquences de ces frappes dans les pays du Golfe, conséquences économiques, on en parle avec notre invité dans 10 minutes. Ce conflit, Pierre, qui est avant tout une affaire de frappes aériennes, mais qui déborde aussi sur le terrain maritime.
Un nouvel exemple, ce vendredi, des membres des forces navales du Qatar ont été touchés dans des frappes iraniennes visant Bahreïn, mais c'est surtout cette action des États-Unis dans l'océan Indien qui fait beaucoup parler. Deux jours après le torpillage d'une frégate iranienne par les États-Unis, le Sri Lanka annonce avoir pris le contrôle aujourd'hui d'un autre navire de guerre et en avoir évacué l'équipage après une avarie moteur. Les détails avec Joris Zilberman.
Le sauvetage de vie humaine est notre priorité absolue, tels sont les mots du président sri-lankais Dissanayake qui se veut proactif. Il a donc autorisé le navire de guerre Iris Boucher à pénétrer dans les eaux territoriales de son île. Ce navire iranien avait signalé une panne de l'un de ses moteurs. Les 204 marins à bord ont été transbordés sur trois navires de la marine sri-lankaise, puis hébergés dans un camp militaire près de la capitale Colombo. Leur bateau sera acheminé vers le nord-est de l'île. Le président sri-lankais, qui affiche sa neutralité dans la guerre au Moyen-Orient, a voulu éviter un deuxième torpillage après que la frégate iranienne Iris Dena a été coulée ce mercredi par un sous-marin américain. La marine sri-lankaise a retrouvé 84 corps de marins iraniens, en a sauvé 32 et continue de rechercher les 64 disparus. Les bâtiments de guerre iraniens revenaient d'Inde où ils avaient participé à un exercice militaire dans le port de Visakhapatnam. C'est la première fois depuis 1945 qu'un sous-marin américain coule un navire ennemi. Un message de domination maritime envoyé à l'Iran, car ces deux navires aurait pu revenir combattre dans le Golfe et une démonstration de puissance face à la Russie et la Chine.
Joris Zilberman, un succès dont se félicite Donald Trump. Le président américain estime que la République islamique a perdu sa marine, a même perdu tout ce qu'elle pouvait perdre. Donald Trump qui exclut une nouvelle fois toute opération au sol en République islamique, une perte de temps selon lui.
La situation en Iran au centre de toutes les attentions, celle dans la bande de Gaza reléguée au second plan.
Elle est pourtant largement affectée par le conflit débuté il y a une semaine, car au moment où ces avions débutaient leur bombardement sur Téhéran, Israël fermait l'unique passage barrage reliant les Gazaouis au monde extérieur. Le point de Rafah, pourtant vital pour l'entrée d'aide humanitaire et de biens commerciaux, des arrivées désormais inexistantes. Très vite, les Gazaouis ont donc craint de nouvelles pénuries, car la famine a déjà frappé le territoire il y a quelques mois. Et surtout, les habitants craignent un nouvel enfermement total. Et avec cette nouvelle guerre régionale, un abandon encore plus fort de la communauté internationale. Alice Froussard, notre envoyée spéciale à Ramallah, a recueilli leur angoisse.
Lorsqu'elle est allée faire les courses samedi matin sur le marché de Gaza, où Mahmoud a remarqué qu'il y avait plus de monde que d'habitude, l'Iran venait d'être frappé. Très vite, les marchés se sont vidés, chacun ayant peur de manquer. Dans les jours qui ont suivi, les prix ont grimpé en flèche. À chaque fois, résume la mère de famille, c'est nous, les Gazaouis, qui en payons le prix.
Une nouvelle guerre a éclaté, mais les Gazaouis n'ont rien à voir là-dedans. Le peuple palestinien vit déjà la guerre et l'occupation depuis plus de 70 ans. Et avant cela, l'occupation britannique. Honnêtement, on vit toutes ces guerres depuis l'époque de nos arrière-arrière-grands-parents. Mais c'est trop, nos vies doivent continuer normalement.
La bande de Gaza est surtout complètement dépendante des points de passage, là où transite l'aide humanitaire. Mardi, Israël a rouvert le passage de Kerem Shalom, mais seulement pour permettre, je cite, une entrée progressive de l'aide. C'est bien trop peu par rapport aux besoins, explique Amjad Al-Shawa, directeur de Pingo, le regroupement des ONG palestiniennes, qui nous parle en vidéo depuis Gaza. Surtout, dit-il, personne ne peut sortir de l'enclave palestinienne.
Alors qu'il y a plus de 20 000 patients et blessés qui ont besoin d'une évacuation médicale en dehors de la bande de Gaza et que le système de santé s'effondre en raison d'une grave pénurie de médicaments.
Sans compter les bombardements qui continuent malgré le cessez-le-feu, à Gaza, tous craignent une chose depuis le déclenchement de cette guerre régionale, être oubliés. Alice Froussard, Ramallah RFI.
Et cette guerre au Moyen-Orient a par ailleurs empêché la livraison de 6 millions de dollars de médicaments destinés justement à l'enclave palestinienne. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'annonce. Un conflit qui agite également forcément depuis son commencement la classe politique française. Et après plusieurs jours de silence, Sébastien Lecornu vient d'annoncer qu'une réunion sur la situation au Moyen-Orient se tiendrait mercredi prochain à Matignon. Bonjour Aurélien Devernois.
Bonjour.
Comme demandé par les formations d'opposition, les dirigeants des partis politiques sont donc invité par le Premier ministre. Et il était temps, estiment ses oppositions.
Oui, les lettres commençaient à s'accumuler sur le bureau d'Emmanuel Macron. Mercredi encore, le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, avait envoyé un courrier plaidant pour une rencontre urgente afin que le chef de l'État puisse partager, je cite, des informations tactiques et des réflexions stratégiques sur la crise en cours au Moyen-Orient. En début de semaine, l'option d'une rencontre avec la ministre des Armées, Catherine Vautrin, avait été avancée avant que des problèmes d'agenda officiellement n'annulent la réunion. Depuis, toutes nos relances restaient sans réponse, explique-t-on à la direction des écologistes. La frustration commençait à monter, sachant que ces réunions dites « format Saint-Denis » avec Emmanuel Macron sont devenues un passage obligé depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais cette fois-ci, c'est donc le chef du gouvernement qui prend le relais. Pour l'instant, précise-t-on à l'Élysée, Sébastien Lecornu, entouré de ministres et de responsables militaires notamment, fera le point sur l'état de la menace et le positionnement de la France. En bref, confidentiel, mais avec beaucoup d'invités, puisqu'au-delà des chefs de parti, sont également conviés les présidents des groupes parlementaires ainsi que ceux des commissions parlementaires concernées, défense, affaires étrangères et européennes, soit environ une cinquantaine de personnes.
Aurélien Devernois, service politique de RFI, la France qui annonce qu'elle va également reprendre ses vols de rapatriement pour ses ressortissants au Moyen-Orient. Un avion Air France avait dû faire demi-tour hier en raison de tirs de missiles dans la zone. Les autorités annoncent que 5000 personnes se sont manifestées pour bénéficier d'un retour rapide sur le sol français.
RFI, il est 13h13 à Budapest, le ton qui monte entre la Hongrie et l'Ukraine.
Les autorités hongroises expulsent ce midi cet Ukrainien accusé de blanchiment d'argent. Un incident sur fond de bras de fer entre Volodymyr Zelensky et Viktor Orban au sujet du transit du pétrole russe vers la Hongrie via le territoire ukrainien. Un transit que le président ukrainien a assumé empêcher hier. Kiev déconseille désormais à ses ressortissants tout voyage sur le territoire de Budapest. Et puis il était l'une des figures d'un mouvement pro-démocratie désormais sévèrement réprimé à Hong Kong. Jimmy Lai, emprisonné depuis plus de 5 ans et condamné à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté nationale. Une peine que le mania des médias ne va pas contester. Il annonce son intention de ne pas faire appel. Mais ce renoncement ne veut pas dire qu'il entend passer les prochaines décennies en prison. RFI Hong Kong, Florence de Changi.
À 78 ans, Jimmy Lai ne fera pas appel de sa condamnation à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, tombée le 9 février. Ses avocats n'ont pas donné de raison à cette décision, mais elle est cohérente avec son attitude depuis le début du procès. procès. Jimmy Lai avait plaidé non coupable alors que ses co-accusés avaient plaidé coupable et obtenu à ce titre un tiers de remise de leur peine. Jimmy Lai n'avait pas non plus plaidé les circonstances atténuantes. Le dossier de Jimmy Lai est donc techniquement clos à ce jour, ce qui peut permettre des négociations à son sujet, notamment entre la Chine et la Grande-Bretagne, dont Jimmy Lai est citoyen, ou entre la Chine et les États-Unis, puisque libérer Jimmy Lai serait une nouvelle plume que Donald Trump aimerait ajouter à sa casquette. Contre toute attente, la semaine dernière, Jimmy Lai a gagné en appel dans une affaire de fraude pour laquelle il avait écopé de presque 6 ans de prison en 2023. Cette victoire pourrait, au mieux, rapprocher de quelques années l'échéance de sa sortie de prison, pour le moment prévue en 2044. Florence Dechangy, Hong Kong. RFI.
Hong Kong, où il est 20h15, 13h15, ici à Paris, la suite de RFI Midi avec Paul Longsens-Pinelli.
Merci beaucoup Pierre Boudias. Et tout de suite, c'est le journal des sports avec Thomas de Saint-Léger. Bonjour Thomas.
Bonjour Paul.
En football, la qualification de Lens aux dépens de Lyon hier soir et donc les affiches des demi-finales de la Coupe de France que l'on connaît, ça sera Lens-Toulouse et Strasbourg-Nice.
Ne vous les plaît.
Avec d'entrée de 25
Radio jours. HDR.
Radio HDR.
Le mix des cultures. Le
mix de toutes les cultures.
Est-ce que vous m'entendez bien ?
Radio HDR. 99.1 FM.
C'est sur le 99.1.
Est-ce que c'est clair ?
Somebody ya juicy, yeah. Lucky, lucky. Somebody ya rasi, yeah.
Olo wo fe o, oli wo fe o. Kowe ju kowe se, arule sheti eloto. Olo wo fe o, oli wo fe o. Kowe ju kowe se, abama ko sheti eloto.
Eshe owe wu. Mama yara siwa Adana sunle Mama ya juziwa
Olowo fe o Oniwo fe o Kowe chuko weze Arule sheti eloto Olowo fe o Oniwo fe o Kowe chuko weze Afamako sheti eloto Thank you.
Chers auditeurs, je suis ravie d'être avec vous et honorée de vous proposer cette nouvelle émission intitulée « Repartons ». Repartons, c'est la rencontre de lieux, de professionnels et passionnés afin d'évoquer des sujets qui font notre quotidien et nous interrogent.
Aujourd'hui, je vous propose le deuxième volet consacré à la Maison de la Recherche en Santé Mentale. Dans le premier épisode, j'ai eu l'honneur d'interviewer Lydie Doré, directrice des recherches, et Héloïse Yang, pédopsychiatre. Nous avions parlé de la santé mentale des enfants et des adolescents, des réalités parfois difficiles mais essentielles à aborder. Pour ce deuxième temps, je suis allée à la rencontre de Romain Taton, docteur en psychologie et neuropsychologue, également chercheur au sein de cette nouvelle structure. Avec lui, nous avons exploré les troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme ou le TDAH, des sujets qui suscitent beaucoup de questions, parfois des inquiétudes, et qui méritent d'être expliqués avec clarté. Avant d'entrer dans le détail de ces troubles, j'ai souhaité repartir des bases. Donc, docteur Taton, dites-nous, qu'est-ce que la neuropsychologie ?
La neuropsychologie, c'est une des dimensions qui va plutôt s'axer sur les mécanismes cérébraux qui placent le cerveau un petit peu au cœur du fonctionnement de l'individu. Et les neuropsychologues travaillent sur des outils psychométriques et sont identifiés pour utiliser des outils techniques qui permettent de comparer le fonctionnement individuel à des grandes cohortes, des statistiques plus générales pour identifier et mieux comprendre le fonctionnement de l'individu à travers le fonctionnement de son cerveau. Voulant très rapidement me spécialiser dans l'autisme et dans le handicap, qui va aller chercher les approches qui sont recommandées, qui vont être identifiées par la recherche comme étant les plus pertinentes pour ce public-là. Ce qui m'a amené à me former dans les approches développementales, dans les approches cognitives, dans les approches comportementales. Je me suis très vite intéressé au handicap. J'ai été amené à rencontrer des personnes avec autisme, ce qui m'a intéressé de mieux comprendre, pour mieux les aider, mieux accompagner ces personnes, leurs familles, leurs parents. On estimait qu'il n'y avait pas plus de personnes qui avaient de l'autisme, par exemple. Il n'y en avait pas tant plus qu'on était meilleur à les identifier, à les repérer, notamment des formes qui vous pouvaient être plus à la marge, qui peut-être il y a 30 ans n'auraient pas amené un diagnostic, alors qu'aujourd'hui, notre connaissance des troubles font qu'on est plus à même d'identifier les besoins de ces personnes-là. Donc, factuellement, il y en a plus. Maintenant, depuis une dizaine d'années, on met en évidence qu'il y a de plus en plus de personnes qui présentent ces difficultés-là. Et on identifie l'autisme comme un trouble plurigénétique multifactoriel. Pour évoquer plurigénétique, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs gènes qui seraient concernés, en fait, on n'a pas un gène, on n'a pas des centaines de gènes, on a des milliers de gènes qui sont potentiellement concernés et impliqués. Et de plus en plus, on met en évidence que des personnes pour lesquelles on confirme un diagnostic de TSA, nous, cliniquement, quand on va ensuite aller regarder au niveau génétique, on va observer plein de gènes qui sont mutés. Mais ce n'est pas systématique. Et il y a aussi des personnes qui ont ces mutations génétiques, mais qui n'ont pas de TSA. Donc c'est plurigénétique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions qui rentrent en compte. Certains des gènes sont plus forts que d'autres. Certains, s'ils sont mutés, il y a plus de chances qu'il y ait de l'autisme. Une des questions souvent que les familles nous posent, c'est de se dire, mais alors, si c'est génétique, est-ce que c'est moi qui ai transmis ? Alors, il y a des gènes qui peuvent être transmis, effectivement, c'est pour ça qu'on peut retrouver des familles dans lesquelles il peut y avoir des prédispositions, mais on a aussi des gènes qui sont des mutations dites de novo, c'est-à-dire que c'est au moment de la fondation de l'individu que, pouf, la mutation apparaît. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir les mutations génétiques, mais que ça ne s'exprime pas au niveau de l'évolution de l'individu. Plurigénétique, je disais tout à l'heure, multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs environnementaux qui rentrent en compte et qui peuvent augmenter la prévalence du TSA. Le fait que la mère, pendant la grossesse, soit exposée à des dimensions de l'environnement, vont jouer un rôle en prévenant parfois de l'autisme, en augmentant le risque que survienne une forme d'autisme. Certaines dimensions sont connues. Certaines dimensions, on a cru que, on a fait des études, on a montré que non. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas d'impact. Les vaccins, pas d'impact. Le fait d'avoir un vaccin n'augmente pas la prévalence de l'autisme chez l'enfant. L'éducation des parents, pas d'impact. Ça, c'est très important aussi de souligner, parce que longtemps, on a cru qu'il y avait un rôle de la posture parentale. Donc aujourd'hui, on sait que tout ça, c'est balayé, c'est vraiment plus du tout d'actualité. Une des plus essentielles, les pesticides. L'exposition aux polluants, les pesticides, aujourd'hui, c'est véritablement une des dimensions qui, dans la littérature, est marquée comme ayant un rôle très important. On peut avoir des publications plus récentes, par exemple, qui soulignent que le fait d'habiter, selon l'étage dans lequel vous habitez en ville, l'exposition aux pots d'échappement, par exemple, peuvent jouer un rôle. Alors, on ne peut pas dire que vous êtes une femme enceinte, vous êtes exposée aux pesticides, boum, votre enfant sera TSA. Ça ne marche pas comme ça. Mais ça augmente la probabilité, ça augmente les risques. Et cette dimension-là, elle est bien identifiée, on sait, on a bien montré en superposant des cartes sur lesquelles on voit les zones d'épandage, et on voit bien le parallèle des cartes entre la zone d'épandage et l'augmentation du trouble du neurodéveloppement chez les enfants. Quand on a une école maternelle et qu'à côté on a un champ de vigne, quand on va répandre les produits, la probabilité que les enfants ils soient exposés à des étapes très précoces de leur développement, c'est vraiment quelque chose de préoccupant. Et pour mieux connaître ça, par exemple, la cohorte Marianne, qui est une démarche nationale, là on va étudier chez des familles qui ont déjà un enfant avec autisme et qui ont un projet d'enfant. Il va y avoir des questionnaires, des petits prélèvements pour la maman pendant la grossesse, des prélèvements au moment de l'accouchement. Et en fait, on va suivre les bébés par la suite. Moi, dans ce cadre-là, je rencontre des bébés régulièrement, de 0 à 6 ans. C'est une étude qui est lancée depuis très peu de temps, à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et on va, pendant 10 ans, continuer à suivre des bébés comme ça. Les bébés, on va les évaluer régulièrement. On va leur proposer des évaluations cognitives, des évaluations neuropsychologiques, des démarches de ce type. Et on va aussi chercher à regarder avec des prélèvements d'ongles, de cheveux, de sang à des étapes de la vie, notamment pour l'enfant tout petit, pour essayer de voir si on retrouve ce type d'éléments, type pesticides et autres polluants qui peuvent être connus pour voir est-ce que, à terme, quand on aura suivi tous ces enfants de la cohorte, est-ce que parmi ces enfants où éventuellement on aura mis en évidence la survenue d'un autisme, aux âges où c'est adapté, est-ce que quand on va regarder les premières étapes du développement lorsqu'ils étaient bébés, ils étaient exposés à plus de polluants, moins de polluants, plus de facteurs, moins de facteurs, plus de difficultés. Et toutes ces dimensions-là sont croisées de manière à essayer de faire du lien et de comprendre, de mieux comprendre comment les choses se développent. Vous me posiez tout à l'heure la question de savoir, dans la recherche, est-ce qu'on étudie la nature du trouble, la cause du trouble, le développement du trouble, l'origine du trouble? Eh bien, en fait, la totalité est impliquée, puisque quand on se focalise sur une des dimensions, on ne peut pas faire l'économie des autres. Donc, on est obligé de mesurer l'ensemble. D'aller à un moment poser la question de voir comment fonctionnent les gènes et est-ce qu'il y a des gènes mutés chez ces enfants-là pour lesquels en parallèle on met en évidence certains types de difficultés, c'est ça qui va être intéressant et c'est l'ensemble en fait qui va permettre de mieux comprendre l'évolution des individus pour mieux les accompagner. Parce que les accompagner eux, ça passe aussi par l'accompagnement des familles, de leurs parents et de leur environnement au sens large, les professionnels qu'ils accompagnent, les autres camarades. Il est fréquent d'avoir des enfants, des adolescents avec autisme ou troubles du neurodéveloppement plus généralement, qui nous interpellent sur ces questions-là. Le fait de proposer des sensibilisations, d'expliquer aux autres enfants ce qu'est l'autisme, ce qu'est le trouble du neurodéveloppement, et bien c'est une dimension qui va être très importante. Et pour finir, sur la prévalence, donc, elle augmente un petit peu. Aujourd'hui, la prévalence de l'autisme en France, elle est identifiée à 1 à 2%, là où les troubles du neurodéveloppement, au sens large, dans lesquels on va retrouver le trouble du développement intellectuel, ce qu'on appelait auparavant la déficience intellectuelle, donc elle est ici. Les troubles scolaires sont là aussi, dysgraphie, dyscalculie, dysorthographie, etc. Le TDAH, dont vous parlez tout à l'heure, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, tous ces éléments-là appartiennent aux troubles du neurodéveloppement. Ça représente 10 à 15% de la population, des enfants. Donc c'est pas du tout négligeable.
Le neuropsychologue étudie le cerveau pour mieux comprendre chaque personne grâce à des tests comparant ses capacités à la population générale. Aujourd'hui, l'autisme touche 1 à 2% des Français, en hausse à cause d'un meilleur dépistage de facteurs génétiques et environnementaux, comme l'exposition aux polluants pendant la grossesse. Au total, les troubles du neurodéveloppement, dont l'autisme, le TDAH et les troubles intellectuels, concernent 10 à 15% des enfants, et mieux les comprendre permet un accompagnement plus adapté pour eux, leur famille et l'école.
La neurodivergence, les troubles du neurodéveloppement sont quand même mieux connus dans la population. Les gens ne sont pas forcément capables de vous donner la bonne définition. Mais si vous interrogez quelqu'un au hasard dans la rue et vous lui demandez s'il connaît l'autisme, s'il connaît le TDAH, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il y a 20 ans qu'il soit capable de vous dire oui. Il n'aura pas forcément une bonne définition,